Bon, ben mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette deuxième séance autour de ces questions de biotechnologie et évidemment sous un angle un peu plus chimique, mais je vais quand même en permanence évoluer entre les systèmes enzymatiques pour lesquels j'ai une affection plus particulière au système plus complet, plus vivant. Et c'est pour ça qu'on va parler aussi bien de procédés qui utilisent des usines cellulaires que des systèmes enzymatiques. Je vais vous montrer deux images que j'ai déjà montrées. En fait, quand on parle de biotechnologie, pour simplifier, on tourne autour de deux grands systèmes de transformation de la matière qui sont d'une part les systèmes enzymatiques, les enzymes. J'inclus là-dedans beaucoup de choses. J'inclus les enzymes qui sont produites, recombinantes et mutées, enfin toutes sortes de mutations qui peuvent être introduites dans ces enzymes. Et j'introduis aussi les catalyseurs bio-inspirés. J'en parlerai pas du tout cette année, peut-être dans une autre occasion. Mais évidemment, d'une certaine façon, tout ce qui est catalyseur chimique peut ressembler à des enzymes et tout ça est inclus dans les procédés, y compris industriels. Je reviendrai sur cette question du couplage entre chimie et biotechnologie très partiellement aujourd'hui, mais peut-être plus profondément à d'autres occasions. L'autre outil, ce sont les cellules elles-mêmes. Les usines cellulaires, ça peut être des procaryotes ou des eucaryotes. C'est le plus souvent, vous allez le voir, on tourne autour de un peu toujours les mêmes systèmes, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a une bonne connaissance du métabolisme. Si vous voulez, donc là, on tombe sur des micro-organismes naturels, des micro-organismes qui peuvent être très lourdement modifiés avec des métabolismes qui sont certes naturels mais non natifs, et puis comme je l'ai dit la dernière fois et Philippe Marlière l'a aussi évoqué, on peut aller jusqu'à des micro-organismes qui contiennent des génomes qu'on n'a jamais vus nulle part, qui sont synthétiques, que les chimistes ont synthétisés et introduits dans des micro-organismes. Et là, il y a toutes sortes d'applications possibles. Évidemment, comme je l'ai dit la semaine dernière, une des caractéristiques de ce domaine, c'est qu'évidemment, il y a des aspects très très fondamentaux. J'ai défini les biotechnologies comme aussi l'étude des micro-organismes vivants, mais c'est toujours avec une perspective d'application. Et donc là, on a en tête des outils pour faire des biocarburants, pour produire à grande échelle des produits chimiques pour l'industrie, vous voyez, des substances naturelles, des antibiotiques, etc., des outils pour dégrader des composés toxiques de notre environnement, et également pour produire des composés non naturels avec ces nouveaux outils de la biologie synthétique. Voilà la deuxième chose que j'ai déjà présentée la dernière fois. Évidemment, tout ça aujourd'hui est possible, enthousiasmant, parce que les outils pour manipuler les systèmes enzymatiques, donc l'ingénierie enzymatique ou l'ingénierie métabolique et la biologie synthétique s'appuient. Ces outils sont devenus vraiment très performants. Qu'il s'agisse du côté des enzymes, à notre capacité de cribler tout un tas de nouvelles activités enzymatiques dans la grande biodiversité qui est sur notre planète. Les outils de la biologie moléculaire, science qui n'est pas nouvelle, mais sont devenus de plus en plus efficaces. La biologie structurale, évidemment, avec l'analyse à l'échelle atomique des molécules les plus complexes du vivant. Et la modification des protéines avec une chose dont je vais beaucoup parler au cours de cette heure, qui sont les techniques d'évolution dirigée pour vous montrer comment on peut manipuler à grande échelle un système enzymatique. Du côté, évidemment, des micro-organismes, c'est évidemment la puissance du séquençage et de la synthèse des génomes, la bioinformatique, qui joue un rôle extrêmement important, et puis notre connaissance de plus en plus profonde du métabolisme cellulaire, de sa régulation, et là aussi la possibilité donc de cribler des nouvelles souches. Ça, c'est des choses très très fondamentales qui sont des outils qui permettent d'avancer, mais du côté industriel, du côté de la microbiologie industrielle, là aussi, il y a des développements tout à fait importants par exemple, les aspects de régénération des cofacteurs, dont j'aurai l'occasion de reparler à d'autres occasions, de la stabilité des protéines dans divers solvants autres que l'eau, la question de l'immobilisation des enzymes, pour avoir des procédés, là aussi, faciles à manipuler. Du côté de l'ingénierie métabolique, d'une manière générale, on constate qu'on travaille sur un nombre très petit d'organismes. On a à notre disposition un très grand nombre d'organismes. On n'en connaît qu'une toute petite partie de tous les organismes qui existent à la surface de la planète, mais en gros, quand on regarde ce qui se passe, on s'appuie un peu toujours sur les mêmes, et quand vous allez regarder la littérature ou les systèmes industriels, eh bien, vous allez tomber toujours sur des bactéries comme Escherichia coli, et du côté des eucaryotes, c'est évidemment la levure qui est l'organisme le plus utilisé. Ceci s'explique assez facilement parce que, évidemment, on constate que ces organismes sont très stables, qui sont capables à la fois de répondre à des demandes de production de produits très fins. Ici, vous avez une échelle en valeur du produit, ici en volume. On peut aussi bien traiter une petite production de produits à très haute valeur ajoutée. Voilà, c'est composé, produits pharmaceutiques, vitamines, antioxydants, etc. Et à l'inverse aussi, utiliser ces organismes pour produire à très grande échelle des molécules qui ont un peu moins de valeur, éthanol, solvant, enfin, etc. En gros, le schéma, c'est essayer de travailler sur un organisme qu'on peut alimenter de diverses manières, qu'on peut lourdement modifier par biologie synthétique, en particulier par ingénierie métabolique, et vous verrez au cours de ces cours aujourd'hui et dans les cours suivants qu'on peut aller très très loin dans la manipulation, dans la modification de ces organismes. Encore une fois, pour produire des choses aussi importantes que des biocarburants ou des médicaments. Ce qui est intéressant avec des organismes comme ça, c'est qu'à partir d'une source, un sucre ou quelques sucres, on est capable de faire dériver, donc on a un certain nombre d'intermédiaires métaboliques qu'on connaît bien, on est capable de faire dériver à volonté d'une certaine façon, même si, comme vous allez le voir, c'est assez compliqué malgré tout, vers une surproduction de lipides, et là on tombe sur la production de biocarburants, de médicaments, ou faire dériver vers la production d'isoprénoïdes, et là, c'est toute l'application à la production des parfums, de vitamines, de suppléments alimentaires, etc. Dans d'autres voies métaboliques, pour produire des antibiotiques, des anticancéreux, etc. À partir, vous voyez bien, d'un seul outil biologique qui est une levure. Alors, je voudrais discuter un petit peu de ces termes, ingénierie métabolique et biologie synthétique, parce qu'on pourrait les confondre, et en fait, il faut faire attention de ne pas trop les confondre, et en même temps, ce n'est pas si simple que ça, c'est une question de degré, j'ai l'impression. Lorsqu'on parle d'ingénierie métabolique, on discute surtout de... d'une modification relativement limitée du système qu'on étudie. Donc c'est l'ingénierie métabolique, tel que je l'écris ici, c'est un développement de méthodes et de concepts. D'une part, évidemment, toujours l'aspect très fondamental, l'analyse, il faut qu'on comprenne quand même ce qui se passe dans ces organismes, analyse des réseaux métaboliques, et une fois que ces choses sont connues, l'exploitation de ces réseaux métaboliques pour produire sélectivement un composé qui est ciblé, et là on construit donc un organisme qu'on peut appeler une usine cellulaire, usine parce qu'évidemment elle est destinée à produire le composé ciblé. Et cette ingénierie, donc ce travail de modification de l'organisme, peut conduire à tout un tas de choses. On a envie de changer la spécificité de substrat, on a envie de faire en sorte que l'organisme produise des composés chimiques, par exemple, non naturels. On peut viser à ce qu'il y ait une amélioration de la productivité, des rendements, et on peut viser à ce que, par exemple, il y ait une très grande résistance de cette bactérie ou de cet organisme vis-à-vis d'un certain nombre de produits toxiques de l'environnement. Ça, c'est pas très nouveau. Dans l'histoire des biotechnologies et de la microbiologie industrielle, ça fait longtemps que, disons, on fait de l'ingénierie métabolique, qu'on appelait peut-être pas à l'époque comme ça. L'année dernière, j'ai fait une promenade sur presque un siècle de développement des biotechnologies, et finalement, les concepts qui sont décrits ici existaient déjà au début de l'histoire des biotechnologies. Lorsqu'on parle de biologie synthétique, on va un peu plus loin. Parce que ici, il s'agit véritablement d'introduire dans un organisme vivant, et puis même ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut inventer un organisme, donc la fameuse cellule synthétique qu'on a déjà évoquée, qui n'est pas totalement synthétique, mais on l'a évoquée à plusieurs reprises. Ici, il s'agit vraiment de construire des réseaux métaboliques nouveaux, et en particulier non naturels, qu'on introduit, donc des nouveaux systèmes de contrôle génétique, des nouveaux chemins métaboliques. Alors ça peut aller jusqu'à des nouveaux chromosomes, des nouvelles cellules, c'est à nouveau les cellules synthétiques dont on parlait, donc qui n'existent pas dans la nature. Et là, ça peut aller très loin parce que ce qu'on va essayer de combiner pour atteindre cet objectif, c'est en effet de manipuler des objets biologiques et des réseaux biologiques, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut y compris atteindre cet objectif en introduisant des composés purement de synthèse chimique. Et comme vous l'avez vu la semaine dernière, ça peut aller aussi loin que des ADN qui n'existent pas, des bases nucléiques qui n'existent pas, qui sont de pure synthèse chimique, et donc des chromosomes totalement chimiques. Et là aussi, bon, les objectifs sont les mêmes, il s'agit de produire des composés, des molécules, des matériaux utiles pour l'industrie et pour la société, à travers des mécanismes donc tout à fait... Enfin, complexe et en même temps tout à fait nouveau qu'on n'atteint pas avec l'ingénierie métabolique. On peut peut-être simplifier, pour peut-être préciser les choses, pour bien montrer la différence. Et cette figure d'ailleurs montre que c'est une histoire de degrés. Hein. C'est un peu la même chose, mais c'est juste que c'est plus amplifié lorsqu'on s'approche de la biologie synthétique. Ici, vous avez en haut plutôt un schéma de type ingénierie métabolique, c'est-à-dire que vous avez des réactions chimiques, donc dans la cellule, des réactions naturelles, des réactions biologiques, catalysées par des enzymes, etc. Et, par exemple, ici, vous forcez le système à aller vers une voie plutôt qu'une autre. Vous n'avez pas introduit quoi que ce soit de nouveau, quoi que ce soit de synthétique, mais simplement vous avez orienté par des manipulations, vous avez poussé le système à aller vers une voie plutôt qu'une autre. Là, on est dans l'approche traditionnelle, le flux métabolique vers le produit est amélioré par des modifications génétiques ciblées. Vous pouvez aller un peu plus loin où vous avez une certaine voie naturelle dans ce micro-organisme, et puis vous avez envie de partir d'un intermédiaire, ici c'est l'intermédiaire B, qui existe dans la cellule, qui est utile, qui est dans une voie métabolique, et vous avez envie de faire partir, parce que c'est intelligent pour produire ce composé, vous avez envie de partir de là pour introduire des réactions qui ne sont pas présente dans la cellule. Donc vous introduisez des nouvelles réactions à l'intérieur de cet micro-organisme. Et là, vous voyez, on part d'un intermédiaire qui existe dans la cellule. Et puis, beaucoup plus loin, donc ça, c'est l'approche intermédiaire, l'insertion d'un chemin métabolique exogène permet la synthèse d'un produit non naturel. Là, attention, bon, j'ai peut-être pas défini ce que j'appelais naturel et non naturel de façon très, très précise, mais ici, vous entendez que c'est un produit qui n'est pas synthétisé par cette bactérie normalement, ou ce micro-organisme. Mais donc c'est un produit qui est exogène aussi. Et puis le dernier cas, c'est le cas de, disons, qu'on peut mettre sous le terme de biologie synthétique, où vous utilisez un organisme pour introduire complètement un réseau métabolique totalement nouveau, et ça peut aller à nouveau très très loin, ça peut être jusqu'à l'introduction d'un chromosome totalement synthétique. Là, j'ai parlé essentiellement de micro-organismes, donc d'usines cellulaires et d'ingénierie métabolique de biologie synthétique. En réalité, quand on regarde les procédés industriels ou ce qui est développé dans les laboratoires, c'est très souvent quand même un mélange de catalyseurs chimiques et de catalyseurs vivants. J'inclus dans catalyseurs vivants aussi bien enzymes que usines cellulaires. Et voilà, vous avez d'une certaine façon un aspect de microbiologie, de biologie, où vous faites produire par tout un tas d'organismes, ça peut être des plantes, ça peut être des micro-organismes, Escherichia coli, la levure, etc., dans des usines de fermentation, d'extraction, de purification. Vous pouvez effectivement produire un certain nombre de composés naturels et ensuite utiliser la chimie organique ou des enzymes pour faire des transformations ultérieures. C'est dans ce sens ou dans l'autre sens, comme vous allez le voir, des exemples dans lesquels on commence par faire des modifications chimiques et on introduit des étapes enzymatiques ou des étapes cellulaires. Voilà un exemple. Donc, un exemple de combinaison finalement de biocatalyse et de catalyse, et ça paraît assez trivial et en même temps c'est pas très simple parce que pour rendre les choses à la fois efficaces, rapides, il faut que tout ça puisse se passer sans trop grande contrainte, par exemple de conditions expérimentales, de température, de pression, de solvant, etc. Donc c'est pour ça qu'ici on essaye de penser à des réactions chimiques mais biocompatibles pour ne pas être en permanence à sortir d'un milieu pour aller dans un autre, etc. Donc de créer une chimie qui s'adapte aussi aux conditions du vivant naturel qui sont température ambiante, pression atmosphérique, le solvant c'est de l'eau, enfin, etc., etc. Mais voilà, donc ici par exemple, voilà un exemple de synthèse de bêta-hydroxytriazole, qui sont des composés, ces composés-là, qui sont extrêmement utiles, qui sont très utilisés dans la synthèse de composés de médicaments, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, donc qui sont des pharmacophores. Voyez ici, on commence par partir de cétone, on utilise c'est la première étape, soit des cellules, soit des enzymes, des alcools déshydrogénases, avec toujours le problème. J'aurai plusieurs fois l'occasion de revenir sur ce type d'enzyme dans lequel on consomme un cofacteur qui est extrêmement coûteux, et il faut se poser la question de la régénération constante de ce cofacteur à partir de produits de base simples, pas chers, etc. Donc on fait ici une réduction en alcool. Ensuite, on produit cet époxyde avec une enzyme qui s'appelle une allohydrine déhalogénase. Cette allohydrine déhalogénase permet d'introduire ce groupement azido. Et Ensuite, on fait de la chimie clique, que les chimistes connaissent bien, très à la mode, où on fait le couplage avec un acétylène catalysé par du cuivre. Et vous voyez que dans un procédé comme ça, on est capable de produire des composés avec des très très bons rendements, avec des très bons excès énantiomériques, et on peut produire aussi bien des composés qui ont la stéréochimie R sur ce carbone que la stéréochimie S, simplement en utilisant des alcools déshydrogénases et des halohydrines déhalogénases qui ont les bonnes sélectivités. Et elles existent dans la nature, c'est-à-dire qu'on peut les... Donc là, il faut explorer la biodiversité pour essayer de sortir ces enzymes, et on peut aussi, si elles n'existent pas, comme vous allez le voir, les manipuler pour les rendre extrêmement sélectives. Et donc, vous voyez, on peut, dans des procédés relativement simples, coupler des réactions chimiques avec des réactions biologiques, enfin enzymatiques. Une autre façon de coupler la chimie, donc la catalyse chimique à la biocatalyse, c'est un domaine qui m'intéresse, mais dont je ne parlerai pas du tout cette année, peut-être à une autre occasion. C'est le domaine des enzymes artificielles. Donc ce sont des enzymes, mais c'est une construction un peu particulière que les chimistes font. Ici, donc c'est un domaine qui est d'une certaine façon en pleine explosion. Je cite un seul papier ici parce que je considère que c'est peut-être le début de l'histoire. C'est en 1978, c'est George Whiteside qui fait quelque chose qui est encore développé aujourd'hui. Vous voyez qu'il prend une protéine. Il s'agit de la streptavidine. C'est une protéine qui n'est pas du tout un catalyseur, mais qui a la propriété de fixer de façon extrêmement forte la biotine, qui est ce composé-là, avec une chaîne qui conduit à un acide, et ici qui permet de coupler... ce que fait Whiteside, c'est de coupler un catalyseur, ici c'est un catalyseur à base de rhodium, mais on pourrait y coupler ce qu'on veut, et cette molécule qui est donc un catalyseur a à la fois une partie catalytique et une partie de reconnaissance de l'enzyme qui fait que l'enzyme a une très forte affinité pour cette partie-là, et donc vous construisez une protéine qui fixe la partie biotine et qui va avoir la partie rhodium accrochée à la protéine. Donc vous avez inventé d'une certaine façon un biocatalyseur, une enzyme artificielle, parce que elle est enzyme parce que c'est un catalyseur et c'est une protéine. Et elle est artificielle parce que, en effet, elle n'existe pas dans la nature, et ce sont les chimistes qui l'ont construite par assemblage de composants protéiques et de composants chimiques, et notamment avec un catalyseur chimique. Par exemple, ici, ce type de construction a été utilisé pour faire une hydrogénation catalytique, voyez donc avec... y compris dans certains, avec un mutant de la streptavidine particulier, il y a une seule mutation, des excès énantiomériques qui sont tout à fait intéressants. L'autre aspect, c'est ce que j'appelle enzyme de novo, c'est-à-dire que le chimiste est capable de synthétiser dans le laboratoire des protéines. Et il peut aller même plus loin, puisque s'il est capable de faire des peptides, des polypeptides, même assez structurés, des hélices, il peut aussi les utiliser pour incorporer des entités catalytiques et inventer donc des enzymes. J'aurai l'occasion d'en parler, mais si je prends, par exemple, des enzymes de type estérase, peptidase, etc., qui contiennent des atomes de zinc, dans un environnement un peu particulier qui est bien connu, voilà une enzyme naturelle qui fait cette réaction d'hydrolyse, le chimiste est capable de réduire le problème Quelques hélices dans lesquelles il introduit les histidines nécessaires qui ont la capacité de fixer un atome de zinc pour créer une entité qui est une enzyme créée de rien, purement de synthèse, et qui a la capacité aussi de faire cette même réaction d'hydrolyse parce que, évidemment, la capacité catalytique et hydrolytique de ce gros système-là est en fait dû à l'atome de zinc, qui est un excellent acide de Lewis, comme vous savez, et qui a la capacité d'activer des molécules d'eau pour faire ce type de réaction. Je voulais, parce que j'aurai l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans ce cours aujourd'hui, mais aussi dans les cours suivants, quand on parle de biocatalyseurs, d'enzymes, maintenant, on parle de grandes classes de systèmes enzymatiques. Et ce que vous voyez aujourd'hui qui est très développé aussi bien dans les laboratoires académiques que dans les entreprises biotechnologiques ou dans l'industrie, ce sont des réactions de ce type-là, donc beaucoup d'hydrolase, estérase, lipase, acylase, etc. Vous voyez ici une époxyde hydrolase qui ouvre l'époxyde pour donner un diol. On a parlé d'allohydrine déhalogénase qui sont capables d'interconvertir ces deux types de molécules aussi bien dans un sens que dans un autre, c'est-à-dire l'ouverture d'un époxyde ou la formation de l'époxyde. Vous avez des oxydoréductases donc pour faire des réductions de cétones et alcool déshydrogénase, ça aussi ce sont des réactions qui fonctionnent dans les deux sens. Vous voyez ici cétone alcool. Là aussi vous voyez aussi un aspect important que j'ai déjà évoqué qui est le problème de la régénération du NADH grâce à des systèmes y compris enzymatiques. Là ce sont des formiates déshydrogénases, vous avez la capacité non pas de réduire cette cétone en alcool en utilisant ce cofacteur, le NADH, qui est extrêmement coûteux, mais en fait, au bout du compte, vous le faites à partir de l'acide formique, qui, grâce à la formiate déshydrogénase, réduit le NAD qui est constamment formé dans la réaction au-dessus en NADH. Vous pouvez le faire aussi avec des hydrogénases, par exemple, et là, votre réaction, le bilan de votre réaction, c'est une réduction non pas de l'acétone en alcool par le NADPH, mais par l'hydrogène. Vous avez aussi des réactions qui sont plus complexes que ces réactions qui sont relativement simples sur le plan chimique. Vous avez des réactions d'oxydation. J'aurai l'occasion de les évoquer de façon assez approfondie dans les prochains cours, dans les derniers cours, parce que c'est de la chimie très complexe, avec des cofacteurs très complexes, mais qui ont des propriétés évidemment tout à fait fascinantes parce qu'elles catalysent des réactions compliqué de liaison carbone-oxygène sur des substrats relativement inertes, sur des, par exemple des noyaux aromatiques, etc. Et puis vous avez aussi pas mal de systèmes dans lesquels on est capable de créer des liaisons carbone-carbone ou de carbone-azote. Des transamidases, des aldolases, des liases, des mutases. Enfin, vous avez quelques exemples représentés ici où vous transformez des liaisons double liaison CO en carbone azote. Et ici, vous déplacez, vous voyez, vous convertissez des liaisons CH en CN. Donc, on a une grande diversité d'enzymes à notre disposition. Et donc, comme vous le voyez, on peut faire énormément de choses. L'ingénierie enzymatique, c'est pas nouveau. Là aussi, l'histoire, elle est à peu près au même moment que la microbiologie industrielle, d'une certaine façon. Ça démarre au début du XXe siècle. Et là, vous avez l'utilisation déjà de micro-organismes, d'enzymes naturelles, d'extraits bactériens ou de plantes. Et évidemment, on travaille surtout sur des substrats naturels. On peut faire des transformations de ce type-là avec des extraits de plantes, par exemple, synthèse du mandélonitrile. On peut faire un peu plus tard, dans les années 40-50, on peut faire des molécules plus complexes, et là, c'est par exemple la synthèse de cortisone ou de dérivés par des entreprises comme Merck, Pfizer, Upjohn, etc. À partir des années 1970, c'est évidemment la puissance de la biologie moléculaire qui change considérablement le domaine. On peut faire donc de la mutagénèse dirigée, on peut produire des enzymes recombinantes, on peut déjà commencer à travailler sur des substrats naturels et manipuler la spécificité de substrat de ces systèmes. Et là, on peut évidemment faire des choses à une échelle industrielle. Et donc, vous voyez, par exemple, la synthèse de l'acrylamide, c'est 4 10 puissance 5 tonnes par an. Et puis, on a tout un tas de systèmes qu'on commence à maîtriser pour faire des résolutions asymétriques, pour produire des composés un peu complexes comme des herbicides, des statines, enfin, etc. Donc là, on commence vraiment, dans les années 70, à produire des molécules assez complexes. Et puis, évidemment, à partir de 2000, mettons, on est dans cette nouvelle aventure liée à la connaissance des génomes donc la biologie synthétique, l'évolution dirigée, les enzymes de novo artificielles, les substrats non naturels, les réactions non naturelles. Et là, on est vraiment dans toutes sortes d'applications de chimie fine, des médicaments, de matériaux, de carburants, etc., etc. Alors, il y a un grand engouement, évidemment, pour les enzymes, parce que ce sont des systèmes qui ont l'avantage de présenter une très grande sélectivité des réactions qu'elles catalysent, régio, chimio, stéréosélectivité, en général une très grande activité, une très grande efficacité dans la réaction produite. Très intéressant de faire ça à température ambiante, pression atmosphérique, dans l'eau, hein, donc les conditions douces, et puis donc cette capacité de muter. À l'inverse, cette sélectivité qui est liée d'une certaine façon à la spécificité de substrat est un problème, parce qu'une enzyme est faite pour s'attaquer et modifier un substrat particulier. Donc l'application n'est intéressante que si ce substrat particulier a en effet un débouché spécifique. Mais en réalité, on souhaite avoir des enzymes qui sont capables de faire ces transformations aussi intéressantes que ce que je vous ai présenté sur une très grande diversité de substrats. Donc ça, c'est un problème, mais comme vous allez le voir, on peut manipuler ça. Parfois, on a besoin de passer à des solvants différents, à des conditions de température et de pression différentes, etc. Et ça, les enzymes n'aiment pas trop. Donc là aussi, c'est un problème. Et puis, ce sont des systèmes sensibles. Très sensible, ça peut être des inhibitions par le produit, mais ça peut être des inhibitions par tout un tas de choses de l'environnement. Voilà, donc il y a à la fois des très gros avantages, il y a plus d'avantages à mon avis que d'inconvénients, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un domaine de l'ingénierie enzymatique, et qu'il y a un développement tout à fait considérable des procédés biocatalytiques dans l'industrie. Et on a une capacité aujourd'hui d'optimisation de ces systèmes à nouveau par les mêmes mécanismes que j'ai déjà indiqués à plusieurs reprises, les génomes, la synthèse de l'ADN, l'évolution dirigée, les outils de la bioinformatique, les outils de la biologie structurale, enfin, etc., etc. Alors, modifier ces enzymes, comment, par quel procédé? En fait, logiquement, on devrait fonctionner comme ça, c'est-à-dire on pourrait dire, on veut ce produit. Donc, si on veut ce produit, c'est qu'on veut cette enzyme qui, spécifiquement, est capable de conduire à ce produit. Alors, si les choses sont simples, cette enzyme existe dans la nature et il suffit de l'utiliser et de l'exploiter et de la modifier. Elle peut aussi ne pas exister. À ce moment-là, ça devient très compliqué. Un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours incapables, à partir de nos acides aminés, de dire exactement quelle séquence il faudrait pour construire telle structure et pour que cette enzyme soit douée de la capacité catalytique précise dont nous avons besoin. Ceci est totalement hors de notre portée. Nous n'avons pas encore compris le langage des acides aminés, je veux dire, dans sa traduction structurale et dans sa traduction fonctionnelle. Donc ça, c'est totalement impossible pour le moment. Lorsque je parle d'enzymes de novo, c'est un peu exagéré parce que de novo, ça veut dire qu'on part de rien et qu'on invente une nouvelle enzyme. En réalité, comme vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai donné sur l'hydrolyse de l'ester, avec cette catalyse au zinc, en fait, ce sont des enzymes qui sont très bio-inspirées, c'est-à-dire qu'on les construit à partir d'une connaissance d'une enzyme qui est dont le design est particulièrement adapté à la réaction qu'on cherche. Mais en réalité, là aussi, on n'est pas capable de dire « voilà la structure qu'il me faut pour avoir la réaction considérée ». Ça paraît un peu curieux, mais c'est bien de le dire parce que nous sommes quand même très très loin de cette connaissance. Et donc, on est quand même obligé de partir de choses connues aujourd'hui. C'est assez fascinant de travailler dans ce domaine et d'essayer de s'approcher de cette connaissance, à savoir comment traduire une séquence d'acides aminés en structure et en fonction. Mais on est encore très loin du compte. Alors on part de choses connues. Mais là aussi, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est assez difficile, même aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, de prévoir l'effet qu'aura une mutation sur une protéine. Évidemment, on a des hypothèses, on doit bien faire des choix, mais c'est assez difficile. Donc il y a une grosse activité de ce domaine, c'est en effet modifier l'existant, prendre des protéines qui existent dans la nature et les modifier. Alors, il y a des approches rationnelles, mettons, je mets rationnel point d'interrogation, parce que là aussi, le rationnel est assez limité, et on fait de la mutagénèse dirigée. C'est-à-dire que là, c'est rationnel au sens où on dit que cette protéine, il faut la modifier ici, là et là, très précisément, pour en faire le catalyseur qu'on désire. Les enzymes artificielles, d'une certaine façon, sont aussi dans ce domaine-là, parce qu'on part d'une protéine dans laquelle on peut accrocher un catalyseur dont on sait qu'il sait faire cette réaction-là. Donc là, c'est très rationnel. Whitesides, quand il met un complexe de rhodium dans la streptavidine, c'est qu'il sait que le rhodium catalyse une réaction d'hydrogénation. Et puis, il y a des approches, et c'est celles-là dont je parlerai, parce qu'elles sont plus récentes, et je crois que pour nous tous, c'est plus intéressant de discuter de cela. Donc ce sont les approches, je dirais, d'une certaine façon irrationnelles, qui partent du principe qu'on ne sait rien, qu'on ne peut pas prévoir, et à ce moment-là, c'est de la mutagénèse aléatoire. On a des systèmes qui mutent sans qu'on sache comment ni pourquoi les systèmes d'intérêt. Et je vais parler d'évolution dirigée qui consiste en gros à répéter des cycles de mutagénèse, à exprimer les gènes mutés et ensuite à les tester pour l'activité désirée. Et voyez bien, ce n'est qu'à la fin qu'on a le résultat, c'est-à-dire qu'on sait si nos mutations ont été efficaces pour l'activité désirée, mais en amont, on n'a aucun a priori sur les mutations qu'il faut faire. Alors je voudrais juste parler du principe et de quelques exemples. Bien, le principe, vous voyez, il est là, on a un gène qui nous intéresse, c'est le gène qui code pour la protéine qui nous intéresse, qui est potentiel catalyseur de la réaction qu'on veut. On fait des mutants, donc on a de multiples mutants, donc l'idée évidemment c'est d'avoir des banques de mutants les plus grandes possibles pour avoir le plus de chances d'aboutir au résultat. On les exprime et on teste les produits, donc les enzymes correspondantes, et on fait plusieurs cycles pour accumuler des mutations qui vont aller vers une optimisation plus grande de ce catalyseur potentiel. Alors, il y a différentes techniques de mutagénèse aléatoire. Il y en a une qui est très classique, qui s'appelle PCR pro-erreur, enfin, qui exploite les erreurs des polymérases, c'est-à-dire que vous faites de la PCR sur donc polymerase chain reaction sur des sur votre système, sur votre gène choisi, donc le gène codant pour une enzyme d'intérêt. Donc vous pouvez donc faire utiliser de la PCR en exploitant les erreurs de polymérase qui à chaque cycle introduisent des mutations. Vous pouvez renforcer en ajoutant des substances mutagènes qui vont créer des mutations, là aussi de façon aléatoire. Vous pouvez, par exemple, ajouter des nucléotides modifiés qui vont aussi contribuer à ces mutations. Et vous allez avoir toute une série de gènes mutés. Et vous traduisez ensuite l'information génétique en protéines, donc vous avez des protéines correspondantes. Vous les testez pour une activité. Si l'enzyme noire initiale n'est pas très active et que l'enzyme jaune est plus active, à ce moment-là, vous sélectionnez ce gène correspondant jaune et vous lui faites subir d'autres mutations jusqu'à ce que vous arriviez à un palier, et c'est la façon simple d'optimiser. Alors, il y a quelqu'un qui a joué... je vais citer deux personnes dans ce domaine qui sont historiquement importantes pour cette histoire, me semble-t-il. Il y a Frances Arnold, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard, dans quelques semaines, à propos des cytochromes P450. Je place à 1993 et son premier travail sur la d'évolution dirigée sur la mise au point d'une protéase qui est résistante à un solvant organique. Bon, ça, c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Voilà, vous partez d'un gène, vous avez des mutations. Vous voyez, à chaque cycle, vous introduisez un certain nombre de mutations. Vous contrôlez pour qu'il n'y en ait pas non plus un très grand nombre. Et puis, on traduit l'information génétique. Donc, vous avez une librairie, une banque d'enzymes mutées et vous faites cycler. Vous sélectionnez celle qui est bonne là-dedans et puis vous lui rajoutez des systèmes enzymatiques. Quand vous avez fait ça, vous avez identifié certains sites de la protéine qui semblent être critiques pour l'activité. À ce moment-là, vous allez plus loin, c'est-à-dire vous choisissez ces sites. Je ne sais pas comment on dit en français, mais dans la littérature, c'est site saturation mutagenesis. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a des points chauds qui ont l'air d'être critiques pour l'activité. Et donc là, vous passez en revue les 20 acides aminés, et donc spécifiquement, vous faites sur ce point-là, vous passez presque tous ou tous si pour optimiser. Voilà, donc ça, c'est la technologie pour le faire, je ne vais pas aller plus loin. Et puis la troisième technique, je simplifie, mais la troisième technique, c'est le brassage génétique, en anglais DNA shuffling. Donc vous avez une banque du gène d'intérêt mutée aléatoirement, vous voyez, avec différentes mutations. Donc vous voyez, c'est le même gène, mais avec quelques mutations, et ici les quatre ont des mutations différentes. Vous fragmentez ces gènes, vous les mélangez, et par recombinaison, vous produisez de nouveaux assemblages avec des mutations placées différemment. Vous voyez, cette mutation, elle était là dans ce gène, maintenant est associée à celle-là et celle-là, maintenant elle est dans un autre gène, enfin c'est le même gène, mais associée à d'autres mutations par brassage. Donc ça vous permet de multiplier à nouveau. L'idée, c'est à la fois aléatoire, à la fois de façon irrationnelle, et en même temps avec l'idée de produire la plus grande quantité de mutations. Vous voyez, les technologies sont intelligentes, mais enfin le concept n'est pas d'une très grande intelligence. Il n'y a pas un raisonnement exceptionnel. Donc ça, c'est une autre façon de représenter ce que je dis. Voilà. Alors le résumé, il est là. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Vous avez votre gène, celui qui vous intéresse, c'est celui que vous avez choisi qui va donner la protéine qui va avoir l'activité enzymatique pour conduire au produit que vous désirez. Sauf que cette enzyme, le produit de ce gène n'est pas assez efficace, vous devez l'améliorer. Voilà l'enzyme qui nous intéresse. Alors, si cette enzyme, vous en connaissez beaucoup de choses, à savoir la structure, le mécanisme de réaction, vous pouvez commencer par attaquer avec une approche rationnelle. Donc, vous faites de la mutagénèse dirigée. Donc, ça, c'est la partie intelligente du travail. Là encore, avec, comme je l'ai dit, une difficulté, c'est qu'on n'est pas toujours très sûr que la mutation qu'on a introduite a la bonne fonction. Mais voilà, ça c'est une première chose. Si vous ne savez rien, eh bien on est obligé de passer par des techniques d'évolution dirigée. Donc ça peut être donc la mutagénèse aléatoire, genre PCR pro-erreur. Une fois que vous avez identifié certains systèmes enzymatiques modifiés qui sont intéressants, qui sont améliorés, vous pouvez encore les améliorer avec cette technique de mutagénèse site saturation, donc en identifiant les points chauds et en les modifiant sélectivement. Et puis, vous pouvez faire du brassage génétique aussi, enfin voilà. Et à la fin, vous devez sortir avec une protéine qui a les propriétés voulues. Et je vais terminer en donnant quelques exemples. Et je voudrais ici citer donc le travail de Martin Ritz en Allemagne, qui pour moi est un des pionniers de ce domaine. Et pour moi, peut-être ceci constitue le premier exemple de l'application de ces techniques pour faire une réaction asymétrique, pour une synthèse asymétrique. Alors vous voyez ici, vous avez c'est pour la production de ces composés chiro qui ont un intérêt notamment industriel. Et donc en partant de ces esters, ici, il y a un groupement nitro parce que le produit ici qui est le nitrophénol est un composé qui peut être suivi par spectroscopie. Donc ça permet d'avoir une sonde pour voir la réaction se produire. Et donc, il est parti d'une lipase de Pseudomonas aeruginosa, vous voyez, qui est vraiment pas très bonne du point de vue de la sélectivité, de la stéréosélectivité, donc qui hydrolyse légèrement sélectivement le composé qui a la chiralité S. Et vous voyez que le composé R, ici, n'est pas modifié. Donc 2% d'excès énantiomérique. Donc là, voilà un exemple à nouveau. Il est parti d'une première technique de PCR pro-erreur. Il a fait 4 cycles. Et à chaque cycle, il a eu entre 1000 et 2000 mutants. Voilà. Donc, et en contrôlant le système pour avoir pas plus qu'un 1 à 2 acides aminés mutés par lipase. Donc mutagénèse. Il a sa librairie de gènes, de mutés, et il l'insère, il amplifie dans colis. Dans ce système, il amplifie dans colis, et puis il l'insère dans Pseudomonas, il analyse l'activité. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise donc ces bactéries modifiées, et il leur donne soit le substrat avec la chiralité S pure, soit la chiralité R, et il compare les activités de production du nitrophénol. Et ce qu'il observe, c'est que, petit à petit, les cinétiques, donc l'activité enzymatique de production du S, qui était au départ, vous voyez, le wild type très, très proche du R, devient petit à petit plus grande. Et comme vous le voyez ici, à chaque cycle, il a une amélioration, il obtient une première protéine qui n'a qu'un seul mutant qui passe un excès énantiomérique de 31%, et puis avec 1, 2, 3, 4 cycles, il arrive à une protéine qui a 4 mutations et qui a 81% d'excès énantiomérique, qui est largement insuffisant. Et donc, il continue. Donc, tout ça, vous le trouvez dans ces deux articles, hein, le premier en 1997 et en 2001. Il continue, saturation mutagenesis, il produit 5000 clones, il arrive à un excès énantiomérique de 97%, il a une dernière étape de DNA shuffling, et il atteint 99% d'excès énantiomérique. Donc vous voyez que sans réfléchir, mais avec un investissement très lourd en termes de production de mutants et d'analyse de ces mutants, à très haut débit, hein, vous voyez les chiffres, à très haut débit, on est capable de passer, de transformer une enzyme de 2% d'excédent thiomérique à 99%. Un autre exemple, la dernière étape, et donc ça c'est un procédé développé par une entreprise qui est très impliquée, Codexis, dans une boîte de biotechno dans cette chimie-là. Voyez ici donc cette molécule complexe. Voyez, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi s'attaquer à des problèmes très complexes comme ça, de molécules de ce type-là. C'est un antidiabétique, c'est la sitagliptine phosphate. Et on part de la prositagliptine qui est ici. Et vous voyez qu'on a une cétone ici, c'est une dicétone. On a une cétone qui va se transformer en amine, enfin en carbone azote. Dans le procédé traditionnel, initial, il y avait une amination ici, et puis ensuite il y avait une hydrogénation catalytique avec un complexe de rhodium, pour arriver à ce produit qui nécessite une dernière étape, mais qui sera la même dans les deux cas. Vous avez un excès enantiomérique de 97% et vous avez un rendement de près de 80%. C'est pas mal, mais c'est pour l'industrie pas suffisant. Et il y a tout un tas de problèmes à ce procédé parce que ici, pour faire l'hydrogénation catalytique, vous avez besoin d'une pression assez élevée. Vous avez une contamination au rhodium qui est à contrôler et donc vous avez des étapes de purification assez dures, ce qui fait que ça conduit à des pertes de rendement. À l'inverse, cette entreprise a choisi de travailler sur un procédé enzymatique et en utilisant une transaminase, qui est une enzyme à pyridoxal phosphate, qui utilise cette amine pour créer la liaison carbone-azote ici. Et ce faisant, ils ont obtenu, je dirais, pratiquement 100% d'excès enantiomérique et avec des rendements qui sont au-dessus de 90%. C'est des chiffres qui paraissent à peine plus élevés qu'ici, mais qui sont vraiment déterminants dans l'exploitation industrielle du composé. Et comme vous allez le voir, je vais le montrer très rapidement, ils l'ont fait à partir aussi de mutagénèse et après introduction de 27 mutations dans cette transaminase. Ils sont partis d'une transaminase qui était, dont ils ne connaissaient pas la structure, mais dont ils ont pu faire un modèle structural à partir d'autres transaminases. C'est une transaminase qui est spécifique de R spécifique de cétone, mais qui est inactive sur ce substrat parce que son site actif, modèle hein, ici, mais assez sérieux, son site actif est trop petit pour contenir en particulier cette partie-là. En vert, vous avez le site catalytique, les résidus catalytiques, et en particulier le site de fixation du pyridoxal phosphate. Vous avez une partie ici qui reconnaît donc le domaine L ici en marron qui reconnaît cette partie-là de la molécule, et par contre le domaine S ne peut pas accepter ce groupement-là. Et donc, comme ils avaient une structure, ou un modèle en tout cas assez crédible, ils ont commencé par une approche, enfin ils ont utilisé une approche ciblée, enfin rationnelle, en essayant de modifier cette partie-là par mutagénèse dirigée. Puis dans un premier niveau, ils ont transformé cette enzyme en une enzyme capable de transformer, alors pas très efficacement, mais ce composé. Et c'est une enzyme avec 4 mutations, 3 dans la partie S, mais ils ont touché aussi un peu à la partie L, et une mutation dans la partie L. Et puis ensuite, à partir de là, à partir du moment où ils avaient une transaminase légèrement active, ils se sont lancés dans une démarche d'évolution dirigée, donc là, moins rationnelle. Je ne détaille pas l'ensemble des techniques qu'ils ont utilisées, mais en gros, c'est celle que je vous ai présentée, avec 11 cycles de mutagénèse. Et ils sont arrivés à leur transaminase qu'ils utilisent dans le procédé industriel, qui a une activité qui fait 40 000 fois l'activité de la première transaminase active, qui est ici, ça, RD, ça, je pense que ça veut dire round one, et puis il y a 27 mutations. Il y en a 5 dans S, Donc ça, on peut comprendre, puisque c'était la partie critique. Donc là, on comprend que ça a été modifié. Donc ça a permis de reconnaître le groupement aromatique fluoré qui ne rentrait pas bien au début. 5 dans L. Et puis, vous voyez, en total, il y en a 27. Donc il y en a 17 autres qui ne sont absolument pas dans ce site-là. Et ça, c'est une chose qui est très fascinante dans ce genre de recherche et dans le comportement des enzymes, c'est qu'on s'aperçoit, et vous voyez bien que c'est assez difficile d'imaginer, vous voyez les sites de mutation, donc ça c'est le site LS, hein, vous voyez, donc c'est là qu'il y a le site catalytique, et c'est très difficile d'imaginer qu'il faille faire une mutation ici pour rendre le système meilleur. Mais ça c'est une constante. Et c'est assez fascinant parce que ça nous dit beaucoup de choses sur les systèmes enzymatiques et en même temps, ça nous dit l'importance de cette approche irrationnelle, aléatoire, pour conduire aux systèmes les plus optimisés. Donc ce sont des techniques qui sont quand même tout à fait intéressantes. Et voyez que donc il y en a 17 qui sont ailleurs, vous voyez, ici, ici, ici. Et on ne sait pas très bien pourquoi, mais est-ce que c'est une question de stabilisation de la protéine? Est-ce que c'est une question d'organisation de la protéine? C'est une question de résistance aux conditions de la réaction? Bref, on ne sait pas. Néanmoins, grâce à cette nouvelle enzyme, on est capable de faire cette transformation en une seule étape dans 50% de DMSO, à 40 degrés, en présence d'une mole par litre de ce réactif, pour produire, avec des concentrations très élevées de substrat. Donc des conditions qui sont quand même assez dures, normalement, pour un système enzymatique. Voilà, c'est la conclusion de ce travail, et donc le résultat, c'est qu'il y a un meilleur rendement, il y a une meilleure sélectivité, il y a une productivité qui est beaucoup plus grande, il y a une quantité de déchets qui est moins grande, on n'a plus le métal rhodium au milieu, et globalement, le coût est total et plus intéressant. Voilà. Pour terminer, peut-être. Donc voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est essayer de vous faire comprendre la puissance aujourd'hui qu'on a, alors chimiste, biochimiste, biologiste, tout ça se mélange, pour produire des systèmes moléculaires. Donc là, on est en plein dans l'ingénierie enzymatique moderne, hein, pour pouvoir modifier de façon très lourde les enzymes. Là encore, j'insiste sur le fait que l'approche aléatoire, d'une certaine façon irrationnelle, est incontournable, à nouveau, parce qu'on est encore très loin de connaître le langage des acides aminés, des séquences, en termes de structure et de fonction. Peut-être dans 50, 100 ans, etc., on sera capable d'écrire la séquence qui conduira à la bonne structure et à la bonne activité enzymatique, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, donc quelques productions biotechnologiques. Vous voyez ici, par exemple, Lipitor, atorvastatine, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars. C'est un produit, ici, très complexe, mais qui est le produit d'une optimisation de tout un tas de systèmes enzymatiques donc qui utilisent des cétoréductases, vous voyez, des alcools déshydrogénases, des nitrilases, des allohydrines déhalogénases, voilà, des aldolases, etc., etc., pour avoir des systèmes avec de très bonnes cinétiques, de très bonnes énantiosélectivités, qui sont stables dans des solvants organiques, qui sont stables avec des grosses concentrations de substrats, enfin, ce dont a besoin l'industrie pour produire ce genre de molécules. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a dans l'industrie il y a dans votre environnement des molécules que vous utilisez et qui viennent de l'utilisation de ces micro-organismes, de ces usines cellulaires, de ces enzymes qui sont capables d'être développées à très très grande échelle. Hein. Vous voyez, bon, le sirop de fructose, c'est 10 puissance 6 tonnes par an. L'acrylamide, c'est là aussi, vous voyez, 4 10 puissance 5 tonnes par an. Je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps. La riboflavine, la vitamine B2, il n'y a pas si longtemps, il y avait un procédé chimique il fallait 8 étapes pour, pour produire la riboflavine, eh bien, BASF a mis au point, pour une production de 4000 tonnes par an, un procédé à partir d'un champignon filamenteux. Vous voyez, ici, c'est la structure de la riboflavine. Et le bilan est colossal. Il y a une économie de 40% sur les coûts de production, de 30% sur les émissions de CO2 et de 95% de réduction des déchets. Donc, on voit l'avantage de ce type d'approche. Bon, d'autres exemples ici. Je suis presque à la fin. Bon, là, c'est toute une liste de... Vous voyez, recently developed biocatalytic process. Il y en a toute une liste, mais je vais terminer. C'est mon dernier tableau. Chaque année, l'industrie de ce domaine-là donne des grands prix, hein, Presidential Green Chemistry Challenge Awards in Biocatalysis. Évidemment, en mettant en avant les procédés verts, c'est-à-dire ceux qui produisent le moins de déchets possible, ceux qui coûtent le moins en énergie, ceux qui produisent le moins de CO2. Ce qui est intéressant, vous voyez, depuis les années 2000, on a... Alors, ici, vous avez les entreprises qui développent ça, vous avez des grosses et des petites entreprises là-dedans, hein. Vous avez des boîtes de pharma, mais vous avez, donc, vous voyez, des boîtes aussi importantes que Merck, DuPont, etc., mais vous avez aussi des boîtes de biotechno, Codexis, Metabolix, enfin, etc. Vous avez ici, si vous regardez un petit peu en détail, mais on ne va pas le faire, vous avez des molécules simples, vous voyez, vous avez des alcools qui peuvent être des carburants ou des substrats chimiques pour l'industrie, et puis vous avez des choses extrêmement complexes, hein, comme le Lipitor, par exemple, le Taxol, donc vous avez des molécules très élaborées, donc à nouveau, toutes ces technologies-là ne s'appliquent pas qu'à des petites molécules pas trop compliquées, elles s'appliquent aussi à des choses extrêmement complexes. Ma dernière remarque, c'est que vous voyez que c'est assez équilibré entre usines cellulaires et systèmes enzymatiques. Les fameux procédés verts ici qui sont mis en avant sont mis au point aussi bien à partir de systèmes enzymatiques élaboré, modifié aussi intensément que ce que je vous ai décrit en vous donnant quelques exemples, qu'à partir d'usines cellulaires. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. J'espère que donc j'aurai réussi dans cette entreprise qui consiste à montrer la grande diversité des approches pour modifier les systèmes. J'ai beaucoup plus parlé d'enzymes, mais là encore, vous le savez, c'est parce que c'est plus ma tasse de thé que la microbiologie. Voilà, donc si vous avez... donc, je vais tout de suite dire quelques mots de Jean Weissenbach. Je suis vraiment très heureux que Jean soit là. J'ai eu la chance de partager avec lui quelques responsabilités au CEA, quand nous étions tous les deux chefs de département. Ça a été une belle rencontre. Mais bon, au-delà de ça, Jean Weissenbach, c'est un des grands noms français de la génomique, de cette révolution génomique. Il a terminé sa carrière comme directeur de l'Institut de génomique à Évry. Ce que j'aime bien avec Jean, c'est qu'il s'est intéressé non seulement aux gènes, mais il s'est beaucoup intéressé aux systèmes enzymatiques, notamment avec cette idée d'aller chercher des nouveaux systèmes enzymatiques, de cribler dans la biodiversité des réactions chimiques inédites. Et donc, je suis très heureux de l'avoir dans cette série de cours qui porte sur ingénierie métabolique, ingénierie enzymatique, biologie synthétique, etc. Voilà. Donc, pendant qu'il s'installe, si vous avez quelques questions, je suis prêt à vous répondre. Et comme vous le savez, après l'intervention de Jean Weissenbach, nous aurons l'occasion de discuter.